Nous avons parlé ensemble de ce fruit de l'esprit qui est l'amour. Nous l'avons défini, redéfini. La dernière fois, on a parlé de la paix. On a parlé de la patience aussi. Et j'aimerais aujourd'hui regarder avec vous cet aspect du fruit de l'esprit qui est la joie. Puisque Paul dit dans Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité ou la bienveillance, pour faire plus simple, la fidélité, la douceur, la tempérance ou la maîtrise de soi. Amen. Je ne vais pas étudier tous les aspects du fruit de l'esprit, ce serait peut-être trop long et ça m'amènerait probablement à redire des choses que j'ai déjà dites. Mais quand on a étudié l'amour, la paix, la patience, la joie, on a l'essentiel puisque tout le reste est en vérité relié et connecté à ce que nous avons vu ensemble. Donc c'est le dernier message aujourd'hui concernant le fruit de l'esprit. Et j'aimerais qu'on fasse à nouveau les lectures complémentaires que l'on avait faites la dernière fois, Romains 14. Romains chapitre 14, et on va prendre le verset 17, s'il vous plaît. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ici, Paul est en train de dire, le royaume de Dieu, ce n'est pas du matériel. Le royaume, il est spirituel. Même s'il est vrai que le royaume a des implications dans le domaine matériel. Dieu, dans sa grâce, répond à mes besoins, à toutes sortes de besoins. Et suite à la prière de la foi, lorsqu'il intervient dans mes circonstances, dans mes situations, béni soit Dieu, il me montre à quel point il entend, il écoute, à quel point il est prévenant, à quel point il est réel, parce que quand Dieu intervient dans mes situations, lui qui est invisible devient complètement réel et complètement accessible. Et il montre à quel point il est réel, à quel point il est prévenant, à quel point il a pensé à tout, même les détails du quotidien, de ma vie matérielle, dans tous les domaines. Et il me montre à quel point j'ai rien à craindre et à quel point j'ai raison de lui faire confiance. Mais même si le royaume a une implication dans le domaine matériel, Paul est clair, le royaume de Dieu, ce n'est pas du matériel. Ce n'est pas ma maison, ma voiture, ma femme, ma santé, mes machins. Même si Dieu a une implication dans tout cela, le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Et il doit prendre une dimension dans notre être intérieur. Et c'est cette qualité de vie que l'Esprit veut déployer et multiplier en nous. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Bien souvent, on a une conception un peu trop austère de Dieu. Attention. On rentre dans l'église. Alors je suis d'accord que Dieu n'est pas Bozo le clown, on est ok. On a une tenue, on respecte, on sait pourquoi on est là, on sait en présence de qui on est. Mais la Bible me montre clairement que Dieu est un Dieu de joie. Et le Saint-Esprit me remplit de joie. Quand je suis arrivé dans l'église de Caen, alors que j'étais encore même pas stagiaire, j'étais encore pré-stagiaire, quand je suis arrivé dans l'église de Caen avec mon beau-père, il y avait une situation qui était très tendue. Vous le savez, on a repris l'église dans une situation qui était vraiment compliquée. Et puis, c'est pas méchant, mais à cette époque-là, c'est tout, l'église avait une conception d'un Dieu très très austère et très très sérieux. Et vous savez, moi, vous me connaissez depuis 18 mois, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de sourire. Et quand j'avais tendance à sourire un petit peu de trop à l'église, les premiers temps, on me regardait un petit peu en disant... Sourire comme il sourit, il ne doit pas être trop sérieux, ce pasteur. Et mon beau-père, qui savait le coup, quand j'arrivais à l'église avec le smile, avec la banane, alors que tout le monde était comme ça, et moi j'arrivais avec la banane à l'église, excusez-moi l'expression, mon beau-père, il me tapait du coude, il me disait « Arrête de sourire, on va croire que tu es chrétien. » Ouais, si vous souriez, on va finir par croire que vous êtes chrétien, ouais. Allez, un autre texte, Romains 15. Vous allez au chapitre suivant. Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez dans l'espérance, oui, mais par la puissance du Saint-Esprit. Okay ? Par la puissance du Saint-Esprit. On va parler un petit peu de joie aujourd'hui. Qui a acte 13, acte 13, verset 52 ? Vas-y, Jean-Luc.
Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit.
Vas-y, redis-le, c'est tellement magnifique. Ah.
Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit.
Amen. On est dans les actes des apôtres, c'est le réveil. C'est pas parce que c'est le réveil que l'œuvre de Dieu se fait comme ça. Il y a énormément de combats, il y a énormément de retours de manivelle, il y a énormément de problèmes, il y a énormément de persécutions. Mais la parole de Dieu me montre que l'Esprit de Dieu est un esprit de joie et que cette joie qu'il met en nous est une force. On est dans acte 13. Étienne a déjà été lapidé. D'accord, on ne parle pas de quelqu'un qui a mal au genou dans l'église, même si je ne méprise personne. On ne parle pas de quelqu'un qui a mal au genou. On ne parle pas de quelqu'un qui a un petit souci de cela ou d'autre chose. Étienne a été lapidé. Jacques, le frère de Jean, parmi les fils de Zébédée, Jacques a été exécuté. Acte 13, derrière, on lit « Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit ». Donc ce n'était pas des farfelus sur un nuage, c'est qu'il y a une dimension de vie qui finit par prendre le pas sur une tristesse passagère, momentanée, qui peut être certes, on peut la connaître évidemment, il y a des moments de tristesse, il y a des moments difficiles, mais la tristesse, elle est momentanée, elle est passagère, mais la joie de l'esprit, elle est installée en moi. Et la joie de l'esprit, elle finit toujours par prendre le pas sur la tristesse. Sinon, c'est que j'ai besoin d'être davantage rempli du Saint-Esprit, tout simplement. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a une multitude de références dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, une multitude de références à la joie. Les apôtres en ont même fait un impératif. Tellement c'est important. Qui a Philippiens chapitre 4, verset 4 ? Vas-y, Cathy.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous.
Amen. Je le répète, parce que vous n'avez pas forcément compris du premier coup, réjouissez-vous. Rien que l'épître aux Philippiens, il doit y avoir au moins une dizaine de références à la joie, rien que dans cet épître. Qui a 1 Thessaloniciens 5, verset 16 ?
Soyez toujours joyeux.
Tu peux me la refaire, s'il te plaît ?
Soyez toujours joyeux.
Amen. Soyez toujours joyeux. Et ce qui est intéressant ici dans l'injonction de Paul, c'est encore un impératif, c'est que le mot « toujours » désigne continuellement le temps, mais aussi les circonstances. C'est un mot « toujours » en grec qu'on emploie autant dans le temps que dans les circonstances. Donc dans la pensée de Paul, c'est « soyez continuellement et en tout temps joyeux ». C'est ça sa pensée. « Soyez continuellement et en tout temps joyeux ». Et il y en a beaucoup qui font « ah ouais, ouais ». Puis d'autres qui font « ah ouais, je vois pas comment on fait là ». On arrive, on arrive. Qui a Jacques chapitre 1er ? Vas-y Eric.
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Je le répète ?
Ah oui, il va falloir là, ouais, vraiment. Ouais.
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience.
C'est sûr que moi, dès qu'il m'arrive une épreuve, je dis « Ah, merci Seigneur, parce qu'avec ça, je vais être plus patient. » Et pourtant, alors, on est bien d'accord, j'ai fait exprès de prendre ces textes-là qui vous font réfléchir autant qu'ils vous font sourire, parce qu'en réalité, dès qu'on est confronté à ces textes-là, réjouissez-vous toujours, soyez toujours joyeux, tout le temps et en toutes circonstances, réjouissez-vous même de toutes vos épreuves, quelles qu'elles soient, tout de suite, avec trois injonctions, on est complètement dépassé, et intérieurement on dit, ben, c'est un peu exagéré, Seigneur. Soit c'est exagéré, soit il y a une dimension que je n'ai pas saisie. Il faut bien comprendre, frères et sœurs, que la joie, On en a parlé quand on a parlé de l'amour, de la paix, de la patience. La joie, c'est pareil. La joie fait partie de la nature de Dieu. La joie n'est pas un sentiment. Quand votre patron vous dit « vous aurez 500 euros de prime à la fin de l'année », ça fait une certaine joie, mais ça c'est un sentiment, ce n'est pas un état, d'accord ? La joie dont il est question ici, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas lié à des temps, à des circonstances, à des difficultés ou à l'absence de difficultés, à ce qu'on me donne aux bonnes ou aux mauvaises surprises. Ce n'est pas un sentiment, c'est une nature. Et chez Dieu, la joie est une nature au même titre que son amour, sa sainteté, sa paix, sa justice, sa bonté, sa patience. C'est sa nature. Amen. Et Jésus était rayonnant de joie et de paix. Le visage de Jésus était rayonnant de joie et de paix. Et nous, très souvent, notre problème, c'est que notre joie est une joie sentiment, comme notre paix sentiment, notre amour sentiment, notre patience sentiment. Mais tout ça, ça a des limites, et tout ça, en vérité, ça peut s'effondrer aussi vite que c'est venu. C'est le principe du sentiment, c'est versatile, ça va, ça vient. Alors, je fais quand même une parenthèse. Je ne dis pas qu'on ne peut pas connaître des moments de tristesse. Bien sûr qu'il y en a. Il y a des moments de tristesse dans la vie qui sont liés à des circonstances sérieuses, des circonstances tragiques. On voit un Jésus qui est, oui, dont le visage est rayonnant de joie et de paix, mais un Jésus qui est parfaitement humain, qui n'est pas une espèce d'huluberlu déconnecté d'avec les réalités de la terre. Oui, si j'ai le ciel dans mon cœur, j'ai quand même bien la tête sur les épaules et j'ai bien les pieds sur la terre. Et Jésus, quand son ami Lazare était dans le tombeau, Jésus a pleuré. Et on a probablement ici un des versets les plus magnifiques du Nouveau Testament pour nous parler de la compassion de Jésus, de ses entrailles et de, dans son humanité, ce qu'il était capable de ressentir pour chacun d'entre nous. Jésus a pleuré. La tristesse, elle est possible, mais elle doit être passagère. Elle ne doit pas être excessive. La tristesse ne doit pas être excessive parce que si elle s'installe, c'est là qu'elle va devenir destructive. C'est là qu'elle va finir par me conduire. Je suis conduit par ma tristesse, comme je peux être conduit par mes peurs. Je suis conduit par ma tristesse parce qu'elle s'est installée. Alors la tristesse, elle est possible, mais c'est la joie qui est installée. C'est la joie qui est enracinée en moi. Et par-dessus, il peut y avoir de temps en temps des moments d'inquiétude. Ben oui, tous les hommes de Dieu, même les plus grands, ont eu des moments de peur ou d'inquiétude. Mais c'est la foi qui a triomphé, pas la peur. La joie est enracinée dans mon cœur. Mais par-dessus, il peut y avoir des moments où, oui, ben, selon les circonstances, je ne suis pas un super-héros, hein, je suis dans un corps humain, je ressens les choses. Mais cette tristesse, elle est passagère, parce que la joie est installée, elle est enracinée. Et la tristesse passe, et le problème, frères et sœurs, c'est quand la tristesse, ou l'inquiétude, ou ce que vous voulez, finit par s'installer et par me conduire. C'est là que c'est destructeur. Connaître des temps de tristesse, c'est logique. Vous n'en connaîtriez pas ? On serait vraiment inquiet. On se dirait, ils ne sont pas normaux, ces chrétiens-là. Ils sont vraiment déconnectés. Oui, il y a des moments de tristesse. Oui, il y a des moments d'inquiétude. Oui, j'ai des moments où je lutte pour aimer des gens. Oui, je lutte pour pardonner. Oui, il y a... Mais ça doit être passager. La joie est installée. La tristesse est passagère. Et c'est la joie de Dieu, toujours, qui doit finir par triompher et par surpasser le moment d'affliction. La joie de l'esprit est là, justement pour m'empêcher de m'enfoncer dans la tristesse. La joie de l'esprit occupe le terrain justement pour m'empêcher de tomber dans l'abattement, dans l'apitoiement, dans la dépression, dans la pitié de soi. Et la joie de l'esprit est là pour m'empêcher d'installer cette tristesse. Cette joie de Dieu, forcément, elle est inimitable. Je ne peux pas la produire par moi-même. Comme tout le fruit de l'esprit, quel que soit le nom que l'on met dessus. La joie de Dieu, c'est une nature. Elle est inimitable, elle est parfaite. Elle fait partie de sa qualité de vie. C'est son exclusivité à lui. C'est son fruit. C'est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le tien. C'est le fruit de l'esprit. Et c'est lui qui le produit en toi et en moi. Qui a Jean chapitre 15 ? Jean 15, 11. Vas-y, Michel.
Je vous ai dit ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit parfaite.
Amen. Je vous ai dit ces choses. Alors, je ne vous redis pas tout ce que Jésus a dit et enseigné sur son ministère terrestre. Jésus a enseigné afin que la joie des disciples demeure installée. Il faut qu'elle soit installée et que cette joie soit parfaite. Il y a le temps, la continuité, elle est installée. Et il y a la qualité, le degré de joie. Une joie parfaite. Quand Jésus, souvenez-vous, quand on a parlé de la paix, Jésus dit à ses disciples, « Je vous laisse ma, la mienne, c'est à moi. Personne ne peut l'imiter. C'est mon exclusivité. C'est moi qui suis la paix, le prince de la paix. Je vous laisse ma paix et je ne vous la donnerai pas comme le monde donne. » Qui a Jean 17, verset 13 ?
J'ai dit ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite.
Amen. Voilà, tu as compris où il fallait mettre l'accent. J'ai dit ces choses, tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai enseigné dans ce monde, c'est afin que vous ayez ma joie parfaite. Dieu veut me communiquer sa joie. Pas un sentiment, mais une nature. Pas des expériences de joie, mais sa nature qui est la joie. Nous avons trop souvent tendance à faire dépendre notre joie des circonstances, à faire dépendre notre joie de ce que nous avons. Et souvent, le smile, le baromètre, il est proportionnel au compte en banque. Le baromètre, il est proportionnel à la taille ou à la beauté de ma maison. Le sourire, il est proportionnel en fonction de ce que mes enfants m'ont fait ou m'ont pas fait comme crasse cette semaine. Et on peut multiplier comme ça dans tous les domaines. Frères et sœurs, je n'accuse personne d'être matérialiste, mais je connais la nature humaine. Et je vous l'ai déjà dit, la nature humaine a trois gros problèmes qui doivent être réglés par la nouvelle naissance et la vie de l'esprit. L'orgueil, le sexe. Oui, je suis pasteur, j'ose le dire, j'ai pas. Oui, bien sûr, il faut le dire. L'orgueil, le sexe et l'argent, le matérialisme. Et le matérialisme, on le sait, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, peut être un sujet de joie, mais malheureusement, c'est un sujet de fausse joie qu'il faut comprendre. Je ne parle pas seulement à des personnes nouvelles en évangélisation, je le dis aussi à des chrétiens. Il faut que nous comprenions que tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons dans notre main ne rentrera pas dans notre cœur. Ça restera dans vos mains, ça restera dans votre boîte à chaussures, ça restera dans votre banque, mais ça ne rentrera pas dans votre cœur. La seule chose, pardon Seigneur, t'es pas une chose, la seule personne qui peut rentrer dans mon cœur, c'est le Saint-Esprit. La joie, la vraie joie, c'est pas de l'extérieur vers l'intérieur. Le bonheur, la joie du Saint-Esprit, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est dans ce sens-là que ça marche, la joie. Parce que c'est une source qui est plantée à l'intérieur de mon être intérieur. Et c'est pour ça que je vous dis, à part le Saint-Esprit, c'est même pas la peine d'essayer. Je cherche même pas à être joyeux. Demain, il y aura des circonstances qui vont me flinguer. Je cherche pas à être joyeux. Je cherche à être rempli du Saint-Esprit. Je ne cherche pas à aimer les autres. Je cherche à être rempli du Saint-Esprit. Et oui, j'arrive à aimer tout le monde, peu importe, je ne suis pas d'accord avec tout le monde, mais j'aime tout le monde. Et l'amour me fait dire la vérité. Amen. La joie que donne l'Esprit de Dieu, elle est plantée dans mon cœur, c'est une source qui est plantée à l'intérieur. J'ai un texte super ici, qui a le psaume 4 ? Psaume 4, verset 8.
Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leur froment et leur mou.
Amen. Psaume 4, verset 8. Tu mets, c'est toi Seigneur, c'est ton œuvre, tu mets dans mon cœur plus de joie que la joie des gens du monde lorsqu'abondent leur froment et leur mou. C'est une façon d'exprimer ici tout ce qu'on peut avoir dans la vie. Tu mets dans mon cœur, ça c'est l'intérieur, la source plantée, bien plus abondante, bien plus excellente que ce que je peux avoir à l'extérieur. Et ça me rappelle ce que Paul dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Et je suis beaucoup plus joyeux par le Saint-Esprit que lorsqu'abonde le froment, le mou, les biens, l'argent, la maison, la voiture, les trucs, ce que vous voulez. Tu mets dans mon cœur plus de joie. L'action du Saint-Esprit va produire une joie qui est indépendante des circonstances. Indépendante. La joie de Dieu ne m'aveugle pas sur les circonstances. La joie de Dieu est plus puissante que les circonstances. La joie de Dieu est indépendante des circonstances. Elle est plus forte que les circonstances. C'est une force de vie. La joie de Dieu est une force de vie. Quand on regarde la vie de Paul, parce que c'est quand même lui qui a écrit pour la plupart tous ces textes magnifiques, toutes ces injonctions, tous ces impératifs, vous regardez la vie de Paul, c'était pas un long fleuve tranquille. Je veux dire, vous avez lu un peu son histoire, vous savez qu'il a traversé des tempêtes, qu'il a eu des pressions, de l'oppression, des trahisons, de l'abandon, de la prison, de l'injustice, des privations, etc. etc. Et malgré ça, Paul écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Alors, quand Paul écrit ça, il n'est pas en train d'écrire dans ses épîtres à des gens qui n'ont pas de problème. Vous relisez l'épître aux Philippiens, vous regardez le contexte, vous voyez que ce n'est pas un contexte idéal. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne roulent pas en Mercedes, les Philippiens. Ce sont des gens qui sont modestes, ils ont peu de moyens. Paul leur parle dans son épître de leurs adversaires. Il y a des mauvais ouvriers, il y a des chiens, il y a des ennemis de la croix, il y a du crépage de chignon dans l'église entre Évodie et Saint-Tiche. Le contexte de Philippe n'est pas parfait. Il y a différents problèmes à différents niveaux. Et pourtant, il leur dit « Réjouissez-vous ». Son contexte à lui, Paul, on pourrait se dire « Oui, mais lui, il ne sait pas de quoi il parle ». S'il leur dit de se réjouir, c'est parce que lui-même est peut-être dans une petite bulle, il est peut-être dans une espèce de petite sphère dans laquelle le Seigneur le garde, parce que vu que c'est lui le pasteur, il n'a jamais de problème, vu que c'est lui l'apôtre, il ne doit pas avoir de combat, il est dans une bulle, il est gardé. Mais Paul, lui, à Damas, les Juifs tentent de le tuer. Il doit s'enfuir dans une corbeille. Vous vous souvenez de l'épisode de la corbeille? C'est parce qu'il est menacé de mort. À Icône, les Juifs et les non-Juifs, cette fois-ci, veulent le lapider. Il est obligé de s'enfuir encore une fois. À Lystre, cette fois-ci, par contre, ils ne l'ont pas raté. Ils l'ont vraiment eu. À Lystre, ils l'ont eu, ils l'ont lapidé, ils l'ont traîné en dehors de la ville, ils l'ont laissé pour mort. Et vous savez ce qu'il fait, Paul? Mais il ne va pas faire une thérapie de 6 mois avec des médicaments et 19 psychanalystes, psychologues, psy machin et psy bidule. Vous savez ce qu'il fait, Paul? Il se lève, il y retourne. C'est parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Une joie, une paix, un amour, une consécration qui est plus forte que toutes les circonstances. À Philippe, battu et emprisonné. À Thessalonique, à Bérée aussi. De nouveau, les Juifs agitent la foule contre lui, il doit s'enfuir. À Corinthe, il l'arrête, il est traîné devant le proconsul romain. À cela s'ajoute, je ne peux pas tout vous passer ce qu'il a eu, les manques, les privations, les jeûnes forcés, les naufrages, le froid, etc., 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 tout ce qu'il décrit aussi dans les Corinthiens. Et non seulement Paul, il n'est pas inquiet, mais en plus, il est dans une joie et dans une paix profonde qui surpasse toute intelligence, qui surpasse les circonstances. C'est pas, vous voyez, c'est pas l'euphorie d'un instant. C'est pas le petit moment quand Paul écrit aux Philippiens ou aux Thessaloniciens ou quand Paul écrit ces lignes-là, c'est pas parce qu'à un moment il a un petit moment d'optimisme. Vous savez, ces petits moments où qui nous prennent à l'intérieur puis on se dit, oh finalement c'est pas si grave, ça va s'arranger. T'inquiète pas, ça va s'arranger. Tu crois? Mais oui, ça va s'arranger. Ah, je suis content, elle m'a dit que ça allait s'arranger. Elle n'en sait rien, elle n'est pas Dieu pour savoir comment ça va s'arranger. Et on a ces petits moments d'euphorie, ces petits moments d'optimisme qui sont en vérité du déni déguisé. C'est du déni. Il y a un moment, on a peur, on ne veut plus affronter une situation et on tombe dans le déni. Tu dis, oh, mais c'est pas si grave. Si, c'est grave. C'est très grave. Être emprisonné et battu pour sa foi, lapidé et laissé pour mort, c'est très grave. Ce n'est pas du déni, La solution, c'est pas l'optimisme. La solution, c'est pas la pensée positive. La solution, c'est pas de minimiser ou de nier. La solution, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et très souvent, frères et sœurs, on a soit cette attitude de déni, soit cette attitude exaspérée de contre-attaque et de dire « Mais tu te rends pas compte ce qu'on traverse ? Mais tu te rends pas compte ce qu'on a vécu ? Tu te rends pas compte de ma situation corporelle ? Mais est-ce que tu n'as pas conscience de ma situation matérielle ? Mais est-ce que tu n'as pas conscience de ma situation familiale ? Si ! C'est justement pour ça, parce qu'on en a conscience, que l'on vous dit « Comment allez-vous faire si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit ?» C'est nous qui n'avons pas compris la véritable nature du Saint-Esprit. Ce qu'il veut et ce qu'il est capable de produire, ce n'est pas lui ou le pasteur ou ton frère ou ta sœur qui n'a pas compris ce que tu vis. Pardon, c'est toi qui n'as pas encore compris, malgré les années, la véritable nature de Dieu. Et ce qu'il peut vraiment accomplir dans ta vie. Et c'est pour ça que je réponds toujours, si, j'en ai conscience. Mais c'est justement pour ça que tu ne peux pas faire l'impasse sur la plénitude du Saint-Esprit. Comment ça se fait ? Faut être un peu... On a le droit d'être un peu cartésien, un petit peu rationnel. Parce que si dans sa parole, Dieu parle à notre cœur, amen. Mais croyez-moi, il parle aussi à notre raison. Hein. Dieu est logique. J'ai le droit d'être logique. Pourquoi ? Paul est-il capable de se réjouir en tout temps, même dans les pires moments de sa vie ? Et les pires sont pires que les miens. Comment se fait-il que Paul se réjouisse en tout temps et que moi, je perde ma joie pour un oui, pour un non ? Comment est-ce qu'il était capable de se réjouir en toutes circonstances, même en prison, alors que moi, je vais promener des regards inquiets sur tellement de choses, alors que Paul ne s'inquiète de rien ? On l'a vu mardi soir à la prière, Pierre en prison, il dort. Il ne cherche pas un plan d'évasion, il dort. Comment est-ce que je vais pouvoir expérimenter cette joie inconditionnelle dans ma vie ? Comment est-ce que je vais pouvoir me réjouir toujours dans le Seigneur ? Parce que c'est la seule solution, en étant rempli du Saint-Esprit. Paul, les apôtres, les premiers disciples étaient constamment rempli, constamment renouvelé, régulièrement renouvelé dans la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas dans la vie de Paul. Je sais qu'il est dans nos vies. Le Saint-Esprit n'était pas dans la vie de Paul. Le Saint-Esprit remplissait Paul. C'est pas pareil. Dans l'Épître aux Philippiens, il y a une toute petite phrase qui est extraordinaire. Paul dit « Christ est ma vie ». Jamais, au grand jamais, il n'a jamais dit « Jésus est dans ma vie ». S'il est dans notre vie, amen, c'est déjà très bien. Mais là, on va dire comme Jean-Baptiste, hein, il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Il est dans ma vie. Paul n'a jamais dit « Christ est dans ma vie ». Il a dit « Christ est ma vie ». Le Saint-Esprit, il n'est pas seulement dans ma vie, il remplit ma vie. Et c'est pour ça que j'ai cette dimension de vie, cette qualité de vie, ces ressources, ces richesses qui vont toujours finir par revenir par-dessus, chasser les moments de tristesse qui, humainement parlant, oui, sont légitimes, mais s'ils s'installent, vont être destructeurs. Ma joie, elle vient du Saint-Esprit, c'est une dimension de vie avec lui, c'est une qualité de relation, c'est une qualité d'intimité. Ma joie, c'est lui. Qui a le psaume 33 ? Psaume 33, verset 21.
Notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom.
Amen. Notre cœur met en lui sa joie. Pas dans les circonstances, pas dans ce que je possède ou ce que je ne possède pas. En lui, c'est en lui, c'est spirituel. C'est une question de relation et d'intimité. En lui. Qui a le psaume 9 ? Psaume 9, verset 3.
Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut.
Amen. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Psaume 33, notre cœur met en lui sa joie. Psaume 9, je ferai de toi le sujet de ma joie. C'est lui ma joie. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Qui a Actes chapitre 2 ? Actes chapitre 2, verset 28.
Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence.
Amen. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu, c'est toi, Seigneur. C'est toi qui plantes cette source dans mon cœur. Tu me rempliras de joie par ta présence. Cette dimension de joie, frères et sœurs, je termine avec ça. Il y a encore deux textes qui doivent être lus, je crois. Cette dimension de joie, elle est à ma portée. Mais seulement par la plénitude du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit ne s'acquiert ni par expérience, ni par méthode, ni par technique. Il n'y a pas de truc. Le truc, si vous me permettez l'expression, c'est juste d'être rempli du Saint-Esprit. Ce fruit, c'est son exclusivité à lui. C'est ce qu'il est par nature. Et c'est seulement dans une dimension de relation et d'intimité que lui, il va mettre lui sa joie. Il le fait, c'est son fruit. Il le produit en moi et il le fait grandir et il le fait abondamment. Il veut me partager cette joie au même titre que son amour, sa paix, sa patience. Tout cela est inimitable. C'est simplement le résultat visible. C'est le résultat visible d'une vie invisible, secrète, cachée. C'est le résultat miraculeux que la sève produit quand le sarment reste constamment greffé au cep. Le secret, c'est la communion du Saint-Esprit. C'est lui qui le produit en moi. Et s'il insiste à ce point qu'il veut vraiment, c'est dans mon intérêt. Parce que le proverbe 15 dit
« Un cœur joyeux rend le visage serein. »
Encore ?
Un cœur joyeux rend le visage serein.
Un cœur joyeux rend le visage serein. Montrez-moi vos visages pour voir là. La joie de Dieu, c'est un secret de beauté. Oui. Parce qu'une autre version, là j'ai fait lire Proverbe 15 dans la version seconde qui est la plus courante, la plus répandue. Louis II, nouvelle édition de Genève. Une autre version de Bible a traduit ceci, écoutez bien. Un cœur joyeux embellit le visage. Un cœur joyeux embellit le visage. Et dites à quelqu'un à côté de vous, sois rempli du Saint-Esprit, tu seras plus beau. Un cœur joyeux embellit le visage. Ah, vous savez que je ne suis pas un pasteur légaliste, j'ai rien contre le maquillage. Mais peut-être pourriez-vous, mes sœurs, peut-être faire un petit peu d'économie de cosmétiques, on ne sait jamais. Comme je vous ai dit que la paix du Saint-Esprit vous ferait faire des économies à la sécurité sociale, avec la joie vous ferez peut-être même des économies de cosmétiques, gloire à Dieu. Mais j'ai rien contre, il n'y a pas de souci avec ça, évidemment. Un cœur joyeux embellit le visage. Et pour finir, qui avait Proverbe 17 ? Vas-y, France.
Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux.
Amen. Ah, vas-y, redis-la celle-là. Proverbe 17, 22.
Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux.
Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit ou un cœur, parce que l'esprit est à l'intérieur là, un esprit abattu dessèche les eaux. Je ne reviens pas dessus, je vous avais expliqué ces interconnexions, c'est indissociable, esprit, âme et corps. Mais si mon esprit, mon âme sont vraiment dans la joie du Saint-Esprit, il va y avoir nécessairement une répercussion sur la qualité de ma santé. Et quand mon esprit est abattu, quand je suis installé dans le doute, dans l'inquiétude, quand je suis installé dans la tristesse ou ce que vous voulez, il va y avoir une pression sur mon corps et je vais avoir des problèmes de santé. Et ça fait surgir, je vous en avais parlé avec la paix la dernière fois, je ne recommence pas, ça fait surgir tous ces problèmes qu'on a appelés des problèmes psychosomatiques. C'est que la pression de l'âme qui est tellement mal, de l'esprit tellement mal à l'intérieur, va faire exploser, va y avoir des irruptions dans mon corps. Un cœur joyeux est un bon remède pour mes os. Merci Seigneur, tu as vraiment tout prévu. Alors je vous souhaite, frères et sœurs, non pas de chercher de la joie, je ne vous souhaite pas une augmentation ce mois-ci, si vous l'avez, gloire à Dieu, je vous souhaite d'être profondément rempli du Saint-Esprit, parce que ça va changer votre qualité de vie. Amen.